Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
On your marks.
Salut à tous, c'est l'Heure Olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo. Une journée marquée par plusieurs temps forts, on va y revenir. Je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des Jeux, Laurent Vergne et Maxime Dupuis sont à mes côtés. Salut les gars, en forme aujourd'hui ?
En forme olympique.
En forme olympique, exactement. Nous débuterons avec l'événement du jour et la médaille d'or de Primoz Roglic sur le contre-la-montre. Le Slovène qui avait abandonné, on le rappelle, sur le Tour de France après une chute, s'offre une belle revanche à Tokyo. On enchaînera avec la question qui fâche, en demande-t-on trop aux athlètes ? Cela fait suite au retrait de Simone Biles du concours général pour préserver sa santé mentale. Puis on accueillera la skateuse Charlotte Im dans la séquence Retour de Tokyo et l'affiche à suivre jeudi, la finale du 100 mètres nage libre, l'heure olympique, c'est parti ! L'événement du jour, on a choisi d'évoquer la médaille d'or de Primoz Roglic sur le contre-la-montre. Roglic qui a écrasé la concurrence, hein, puisque son poursuivant direct, Tom Dumoulin, a fini à plus d'une minute. Messieurs, c'est une belle revanche pour Primoz Roglic qui avait, on le rappelle, abandonné sur le Tour de France après une chute. C'est une belle histoire, Maxime.
Ouais, personnellement, j'aime bien Primoz Roglic. Me demandez pas pourquoi, mais j'aime bien ce coureur-là.
Tu ne te demanderas pas.
ça tombe bien, je n'aurais pas su expliquer. Déjà, ce qui est drôle, vous avez peut-être vu l'image sur Eurosport. Il a terminé son contre-la-montre. Il continuait, parti comme une balle. On avait l'impression qu'il était en mission et cette mission-là, il l'a réussi. Comme tu l'as dit, ça fait suite à ce Tour de France difficile, la chute, l'abandon. Et aussi, moi, je l'aime bien depuis l'année dernière et depuis ce qui lui est arrivé avec Pogacar dans la planche de Belfi, c'est-à-dire de se faire remonter. Voilà, moi, j'ai une sympathie certaine pour les athlètes, les coureurs, tout ce que vous voulez.
Les perdants magnifiques.
Des illusions extrêmes et à travers lesquelles il faut se relever. Alors, il avait déjà commencé à se relever avant ça, mais n'empêche que ce qui lui arrive aujourd'hui, je trouve que c'est plutôt cool parce que gagner, être champion olympique, de contre-la-montre, ça remplace peut-être pas, sûrement pas, de gagner le Tour de France, mais c'est quand même une très, 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 très belle consolante. Donc voilà, moi, je trouve que c'est une belle histoire et je suis très content pour lui qu'il ait remporté ce contre-la-montre. Surtout qu'on ne parlait pas vraiment de lui, on va dire, aujourd'hui. On parlait de Ganna, on parlait de Van Aert. Et finalement, il a dominé de la tête et des épaules et il a remporté ce contre-la-montre. Donc, c'est plutôt sympa.
Il était quand même parmi les favoris pour moi aujourd'hui, Roglic. C'est vrai que... On oublie, parce que c'est un coureur de classement général, que c'est pas un pur spécialiste du contre-la-montre comme peut l'être un Filippo Ganna, mais c'est un très, très gros rouleur. Donc, pour moi, aujourd'hui, il était dans les 3-4 favoris pour la médaille d'or. En revanche, là où je suis beaucoup plus étonné, plus que de le voir champion olympique, c'est de voir les écarts qu'il a creusés aujourd'hui. Alors là, si vous m'aviez dit que le deuxième terminerait à plus d'une minute du Primoz Roglic, j'aurais été vraiment très, très étonné. Donc, si surprise il y a pour moi par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est plus là. Après, pour lui, oui, c'est une belle histoire. C'est un coureur qui prouve depuis un an qu'il est quand même capable de se relever de beaucoup de choses. Après son échec, même si le terme est peut-être un peu dur, sur le Tour 2020, où on se souvient comment il avait perdu le maillot jaune à la veille de l'arrivée à la planche des Belles-Filles, dans un contre-la-montre déjà, alors que tout le monde pensait que le Tour était terminé. Quelques semaines après, il remportait la Vuelta. Là, il avait fait du Tour à nouveau son grand objectif. Ça s'est très mal passé pour des raisons un peu extra-sportives, même si les chutes font partie du cyclisme, mais disons qu'il n'est... Il n'a pas été battu à la régulière parce qu'il était moins fort, même si je pense qu'il aurait eu du mal à battre ce Tadej Pogacar-là. Mais là, à nouveau, quelques semaines après, il se relève. Et c'est vrai qu'en plus, dans la course en ligne, le week-end dernier, il avait quand même vraiment coincé dans les 40 derniers kilomètres quand la course s'est emballée. Donc pour moi, il y avait une interrogation par rapport à ça aujourd'hui, mais manifestement, aujourd'hui, il était le plus fort et de très, très loin le plus fort.
Ouais, et si on déroule un peu le classement, il y a quelque chose qu'il faut relever quand même, c'est la quatrième place de Stéphane Kung. On en parlait, Laurent, juste avant. Le pauvre qui termine à 4 dixièmes du podium. Là, pour le coup, c'est l'inverse de Roglic, c'est très dur.
Ah ouais, c'est très très dur, ça me fait beaucoup de peine pour lui. Il avait deux objectifs personnels, Stéphane Kung, dans cet été. Le premier, c'était de gagner un des deux contre-la-montre du Tour. Alors le deuxième, il a fini loin, mais le premier, on se rappelle qu'à Laval, il avait terminé deuxième, battu seulement par Pogacar. Et ensuite, il y avait le chrono des Jeux Olympiques, et là, il termine quatrième à 4 dixièmes du podium. Donc, par rapport à ces deux objectifs, il aura terminé à chaque fois à la pire passe, c'est-à-dire deuxième sur le Tour et quatrième là, à Tokyo. Ouais, c'est très, très, très dur pour Stéphane Kung. Mais bon, c'est comme ça. Ouais. C'est le jeu.
Rappelons aussi la 17e place de Rémi Cavagna, hein, la déception pour le cycliste français qui visait, hein, on le disait avant le début de l'épreuve, peut-être un podium. Malheureusement, il a fini assez loin.
C'est décevant parce que justement, il a expliqué après ce qui lui a manqué pour lui. Il dit « j'aurais aimé courir le Tour de France ». En gros, on avait vu dans la course en ligne que les coureurs arrivant du Tour, malgré le décalage horaire, malgré la fatigue, étaient encore dans une certaine continuité et pouvaient briller sur la lancée, on va dire, de leur troisième semaine. Et ben là, ce qu'il a dit, c'est que tout simplement, il l'avait regretté de parcourir le Tour de France, comme s'il avait un peu coupé et qu'il avait perdu le rythme. Mais c'est vrai que là, le rythme, il ne l'a vraiment pas trouvé, parce que 17e place, il est évidemment très loin de ce qu'on imaginait, ce qu'on espérait pour lui et pour l'équipe de France.
On passe à la séquence suivante, messieurs, si vous le voulez bien, avec la question qui fâche. On va évoquer le cas de Simon Biles et des problèmes mentaux des athlètes. La question qui fâche aujourd'hui, en demande-t-on trop aux athlètes? Pour rappel, on a appris mercredi le forfait de Simone Biles au concours général. Après son retrait du concours général par équipe mardi, elle a expliqué vouloir se concentrer sur sa santé mentale. Pour parler de tout ça, on accueille un journaliste de la rédaction, Martin Mosnier, qui a écrit un article aujourd'hui d'ailleurs. Vous pouvez aller le voir si vous n'avez pas eu le temps encore. On les prend pour des super-héros alors que… Trois petits points. Martin, tu reviens avec une psychologue sur les difficultés, les failles mentales que peuvent avoir certains athlètes. Alors, est-ce qu'on en demande trop, justement, à ces athlètes?
Je ne sais pas si on leur en demande trop. Moi, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on est peut-être à un point de bascule. On a une parole qui se libère sur ces sujets-là et qui ne se libère pas avec n'importe qui, puisqu'on parle de deux figures incontournables de ces JO. On parle de la superstar de ces JO, Simon Biles. On parle de l'icône au Japon, Naomi Osaka. On parle de deux jeunes femmes qui dépassent leur sport et qui dépassent presque le sport. Donc, c'est un sujet, en tout cas, qu'on met sur la table comme ça. Moi, je trouve que c'est un acte, en tout cas, très courageux de le faire maintenant, à cet instant précis, c'est-à-dire à l'un des moments les plus importants de leur carrière. Elles s'interrogent sur le sens de leur carrière, sur le sens de ce qu'elles font actuellement. Ce qui est sûr, c'est que c'est très dur pour un athlète de très haut niveau, pour des jeunes filles qui sont destinées à l'or, en tout cas on les destine à l'or, d'accepter d'avoir une faiblesse. C'est dur d'accepter d'avoir une faiblesse, de l'identifier et de la mettre à jour devant tout le monde. Et voilà, je trouve que c'est un acte de courage assez incroyable, parce que on démystifie un peu l'image qu'on a tous du héros olympique. Non, il y a aussi des failles, il y a aussi des fêlures, il y a aussi et moi je trouve ça assez salvateur, parce que ça va peut-être que ces prises de parole là, elles vont peut-être sauver des carrières dans les années qui viennent. Donc je trouve ça très courageux et je trouve qu'en tout cas elles ouvrent un vrai débat.
Est-ce que ça va permettre d'aller de l'avant? Tu disais d'ouvrir quelque chose, mais pour elles-mêmes, elles n'ont pas le choix. Est-ce que ça va les aider pour rebondir derrière? Ou au contraire, on voit Osaka, c'est difficile quand même de revenir, même après avoir mis des mots sur ces difficultés. C'est pas si simple.
Ah
Maxime,
non,
mais Martin, si tu veux redire un mot.
Non, mais pour moi, on parle de leur carrière, mais là, elles s'interrogent sur le sens même de leur carrière, sur le sens même de est-ce qu'il faut continuer, quel est le sens de leur projet. Donc, on n'en est pas encore du tout là, en tout cas pour Biles.
C'est sûr que mettre des mots sur les mots, ça ne suffit pas forcément, puisque ça donne le message, on a compris ce qui n'allait pas, mais comment le régler, c'est très compliqué. On voit Simone Biles sur le concours général, elle fait un saut, elle voit que ça coince, elle préfère arrêter, repartir, et elle est à out après pour la suite, pour l'individuel, et pour l'instant, elle garde les épreuves individuelles possiblement. Elle doit participer à 5 d'entre elles. Mais on a l'impression qu'elle va être, comme on dit aux États-Unis, en day-to-day. C'est-à-dire, mais je me demande vraiment si elle est capable et si c'est même presque sain de continuer dans ces conditions-là. Elle a dit avant les JO quelque chose que je n'avais pas vu, mais qui est assez marquant après coup. Ce n'est pas facile d'être considérée comme la star principale des JO. Voilà. Donc, ça dit tout. Ça explique la chape de plomb qui repose sur ses épaules. Et je pense que cette chape de plomb, elle a toujours existé médiatiquement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les médias, c'est 24-24 partout, c'est des réseaux sociaux. Après, il faut dire qu'elles jouent le jeu aussi de ces réseaux sociaux-là. Est-ce qu'elles peuvent s'isoler complètement de ça? Je pense que ce n'est pas possible, mais c'est très compliqué parce que voilà, quand ce n'est plus la télévision ou la radio, maintenant, il y a les réseaux sociaux avec tout ce que ça comporte de bon et de moins bon, Instagram, Twitter et compagnie. Donc, elles sont dans un monde connecté 24-24 et maintenant, il faut aussi réussir à gérer cela. Tu l'as dit, Martin, ça libère la parole, tout ça. Mais alors, je veux pas être négatif, mais je n'ai pas de solution pour régler ça parce que j'ai malheureusement l'impression que quand vous appelez Simone Biles, vous appelez Naomi Osaka ou n'importe quel autre sportif du monde entier, que vous êtes une légende en devenir de votre sport ou un très grand sportif, je ne vois vraiment pas comment vous pouvez...
Il existe quand même des coachs mentaux, on en parle de plus en plus. Les sportifs se font suivre désormais. C'était un peu tabou il y a quelques années. Désormais, de plus en plus de sportifs acceptent l'idée de se faire aider. Laurent, ça ne peut pas être une des solutions, ça, de travailler le mental, parce qu'on sait que c'est difficile.
Non, mais ces sportifs-là travaillent le mental. Le problème, c'est... ça me fait penser à Ronnie O'Sullivan, qui disait que dans un monde idéal pour lui, donc Ronnie O'Sullivan, qui est la star du snooker, lui, et qui est en proie à de multiples phases de dépression depuis régulièrement depuis 25 ans. Et il disait, dans l'idéal, il faudrait virer les caméras, la télé, les salaires, les prix et les palmarès. Et le snooker, ça devrait juste être... on joue au snooker dans un bar avec des potes. Il disait voilà, dans l'idéal, ça devrait être ça. Sauf qu'on ne vit pas dans un monde idéal et que le sport est médiatisé. Ces gens-là sont des stars, ne choisissent pas d'être des stars. Ça, c'est la conséquence de leur niveau de performance. Et Simone Biles, elle est devenue, je crois, championne du monde pour la première fois à 16 ans. C'était en 2013. Donc, depuis 8 ans, elle est au sommet et comme l'a dit Martin, elle a dépassé le cadre de son sport, à mon avis encore beaucoup plus qu'une Naomi Osaka, en tout cas au niveau mondial. C'est-à-dire que moi, je connais des gens qui ne s'intéressent que modérément au sport et pas du tout à la gym, mais ils savent qui est Simone Biles. Donc, quand vous atteignez un tel niveau, forcément, c'est très, très difficile à vivre. Et puis, Simone Biles, elle a quand même eu d'autres choses. On a appris en 2018 qu'elle avait été victime d'abus sexuels. Je pense que ça doit aussi peser dans son parcours personnel et dans tout ce qu'elle a vécu. Et pour moi, c'est un peu le principe de la cocotte minute. C'est-à-dire que je pense que Biles, ça ne fait pas 3 semaines ou 3 mois qu'elle ressent une forme de mal-être. C'est un peu comme Naomi Osaka. On a eu ce débat-là, rappelle-toi, Adrien, pendant Roland-Garros à propos d'Osaka, où on était un petit peu surpris qu'elle évoque le fait que les conférences de presse lui provoquaient un mal-être et que finalement, c'était pour ça qu'elle allait quitter Roland-Garros. Et quand elle est partie, elle a publié un communiqué beaucoup plus détaillé où elle a avoué qu'en fait, elle était en dépression nerveuse depuis maintenant plus de 2 ans. Et là, on comprend. Et l'histoire des conférences de presse, c'était un symptôme, ce n'était pas une cause. Je pense que Biles, c'est un peu la même chose. À mon avis, ça fait très longtemps que c'est très dur pour elle. La cocotte minute n'explose pas parce qu'elle, elle doit se dire qu'elle n'a pas le droit, peut-être. Et je pense que c'est ça aussi un des problèmes, c'est qu'au moment où ça explose, c'est presque déjà trop tard. Il faudrait pouvoir qu'ils fassent, ces sportifs-là, de l'auto-prévention quasiment et qu'à un moment donné, ils se disent là, au premier signe avant-coureur, je m'arrête avant de faire un burn-out. Mais sauf qu'on sait
qu'il y a un suivi ou qu'il y a un suivi un peu plus poussé, parce que ça reste quand même des jeunes athlètes. Oui. Tu dis, à partir de en 2000, ça fait 8 ans qu'elle est au plus haut, elle reste encore jeune.
Oui, mais quand tu continues de gagner...
C'est un cercle vicieux.
Oui, c'est ça, oui. Donc, Moi, je ne vois pas beaucoup de solutions non plus, sauf à faire ce que dit Ronnie O'Sullivan, c'est-à-dire on arrête de parler de sport. Mais je ne crois pas que ce soit ni possible ni souhaitable, même parce que ces sportifs-là ont aussi besoin d'être mis en valeur. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue et malheureusement, c'est très difficile. Si ce qu'on voit avec Osaka ou Baez depuis 2 mois a une vertu, c'est quand même que je pense que aussi bien nous, les médias, que le grand public aura quand même en tête maintenant que ces sportifs-là, quand ils atteignent un tel degré de notoriété et de puissance médiatique, restent d'abord et avant tout des êtres humains très fragiles et même beaucoup plus fragiles sans doute que la moyenne, parce qu'ils sont exposés à des choses qui sont anormales.
Si on peut rajouter quelque chose sur Osaka, le cas Osaka notamment, j'ai lu un très bon article hier dans le New York Times, où les articles sont souvent très bons, qui expliquait combien depuis son retrait, c'était redevenu le bazar sur les réseaux sociaux, insultes racistes et compagnie. Voilà. Donc, ils sont tout le temps dans cette adoration, détestation. Voilà. C'est tout le temps ça et dans des marches complètement délirantes. On a oublié le plus grand Olympien de l'histoire, sûrement Michael Phelps. On en parlait beaucoup moins à l'époque, mais il a passé sa carrière à aller de moments d'immense joie, d'immense victoire, dépression, immense joie, dépression. C'était souvent après les JO, justement, qu'il connaissait ça, et il l'a connu aussi après sa carrière. Ce sont des sports aussi, ce qui est drôle, entre guillemets, natation, tennis, gymnastique, ce sont aussi des sports de répétition, des sports qu'on fait globalement, individuellement, où la charge d'entraînement est monstrueuse. Nager tous les jours à 5 heures dans un bassin, donner tout ce qu'on a, on ne peut pas gagner sans répétition. Et je pense que ça aussi, ça casse. Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit, c'est que ça casse aussi les plus grands. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Et pour moi, vraiment, je le redis, comme disait Laurent aussi, je ne vois pas de solution à part lever le pied. Mais si vous levez le pied, vous deviendrez moins bon. Et si vous devenez moins bon, vous serez peut-être malheureux aussi. C'est très, très compliqué comme problème.
Et là, ce qui est important dans ce que tu dis, Maxime, c'est que c'est un des sports de répétition, des sports individuels aussi. Et donc, on peut pas, ces jeunes filles-là ne peuvent pas s'appuyer sur un collectif, sur s'il y a un moment de moins bien, s'il y a un moment de doute, bah, elles sont tout de suite exposées et ça se voit beaucoup plus que dans un sport collectif où tu peux te réfugier derrière.
C'est vrai, Martin, c'est vrai ce que tu dis, mais n'empêche qu'on a vu plusieurs basketteurs, notamment NBA, témoigner. Je crois que c'est Kevin Love qui en a parlé, par exemple, cette année, qui dit qu'il a souffert de dépression nerveuse. Et je pense que même quand tu es dans un sport collectif, quand tu es une star, que tu es un sportif très exposé, le simple fait d'abord de s'avouer à soi-même qu'on a ce problème-là, à mon avis, c'est très compliqué. Donc après, aller l'exposer à la face du monde, c'est encore autre chose. Mais pour moi, je pense qu'elle n'a pas choisi, Biles, de craquer. Vraiment, c'est la cocotte minute. C'est-à-dire qu'on retient, on retient, on retient. Et déjà dimanche, souvenez-vous, lors des qualifications, ça ne s'était pas trop mal passé pour elle, puisqu'elle s'est qualifiée pour toutes les finales, pour les 6 finales. Mais elle avait commis des petites fautes. Il y avait des petit signe avant-coureur, elle paraissait très nerveuse et elle avait avoué en sortant que oui, elle ressentait beaucoup de pression. Et il y a 48 heures, donc la veille de cette sorte de catastrophe sportive qui lui est arrivée, elle avait fait un post sur Instagram en disant qu'elle avait parfois l'impression d'avoir tout le poids du monde sur les épaules. C'est quand même pas des mots anodins et je pense que mercredi, je ne sais plus quel jour on est, ce qui lui est arrivé au moment où elle s'en va. Oui, c'est ça, c'est la cocotte minute qui explose et là, il n'y a plus rien à faire. Donc, il se trouve que là, en plus, la déflagration est gigantesque parce que ça lui arrive en pleine compétition aux Jeux Olympiques. C'est ça qui est fou. Maxime parlait de Phelps. Pour moi, Phelps était un petit peu différent parce que lui, il avait un syndrome qui est beaucoup plus classique chez les sportifs de haut niveau. C'est vous vous êtes préparé pendant des années pour un objectif majeur. Cet objectif arrive, ça passe et derrière, vous êtes face à une forme de vide. Mais Phelps, c'était à chaque fois après une compétition qu'il avait ce letdown, comme disent les Américains. Là, ce qui est vraiment très particulier avec Osaka, Roland-Garros et avec Biles pendant ces Jeux, c'est que ça leur arrive pendant 2 événements majeurs. Donc, d'où l'impact que ça a. Et voilà, moi, j'espère au moins que ça ouvrira un débat et que ça va sensibiliser. Maintenant, est-ce que ça suffit à régler le problème ? Je ne crois pas. Et puis, ça touche la gym. Ce sont des jeunes sportives. On ne devient pas une star de la gym à 28 ou 30 ans. Hein. On devient une star de la gym à 15 ans, souvent. Donc, forcément, vous n'avez pas d'enfance, vous n'avez pas d'adolescence. Et je pense que c'est quand même extrêmement difficile à gérer.
Et là, je pense qu'elle se retrouve, Simone Biles, devant un dilemme absolu, c'est-à-dire que essayer de revenir la semaine prochaine, c'est avoir les caméras du monde entier et encore plus que ça sur vous. Ne pas revenir, c'est les avoir après. Donc, c'est terrible. Ça dit un peu dans, la prison dorée dans laquelle sont enfermés ces athlètes de haut niveau. C'est doré, ouais. Mais il y a ce côté aussi prison parce que elles sont épiées constamment et là, elles ne s'en sortent pas.
Il faudra attendre dimanche, hein, si je ne me trompe pas, pour les finales de saut et des barres asymétriques pour voir si Simone Biles revient ou si elle tire un trait définitif sur ces Jeux Olympiques. Merci messieurs, on va passer à la séquence suivante avec Retour de Tokyo. Dans notre séquence Retour de Tokyo, on accueille aujourd'hui Charlotte Im, skateuse parisienne qui a disputé l'épreuve de street. Comment ça va Charlotte ?
Ça va bien, je viens de descendre de l'avion.
Ça va, t'es pas trop déphasé ?
Non, ça va parce que au Japon, là, il est 7 heures de plus. Du coup, moi, c'est l'après-midi.
Ok. Tu as disputé l'épreuve de street. Tu as fini à la 17e place. Tu n'as malheureusement pas rallié la finale, mais tu as fait ton run de qualification. Comment tu l'as vécu un peu ? Raconte-nous. C'était une belle expérience. On sait que le skate, c'était une première hein, au JO. Tu découvrais donc ça. Comment t'as vécu ça ?
L'environnement des JO, c'était vraiment tout nouveau. Vraiment, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, d'avoir autant de sportifs au même endroit. Le village, je ne m'attendais pas à ça. Il y avait plein de bâtiments avec les drapeaux de chaque pays sur chaque bâtiment. Tu rencontres beaucoup de monde, de plein de sports. Tu rencontres des stars. Tu vois vraiment beaucoup plus de monde que ce qu'on voit d'habitude lors des compétitions de skate. Après, le côté purement skate, quand on allait au skatepark en bus, on avait 10 minutes de trajet. Et ben, ça ressemblait à toutes les compétitions qu'on a pu vivre. On avait le skatepark, on avait un endroit où on pouvait se reposer, on pouvait manger, boire. Et puis après, on allait sur le skatepark, on skatait, on faisait nos entraînements. Puis la compétition, c'était le même format de compétition que ce qu'on a d'habitude. Du coup, c'était vraiment similaire à ce qu'on vit toujours. Et quand j'étais sur la compétition, je ne sentais pas que c'était vraiment différent par rapport à une autre compétition. Mais tout le général, tout l'alentour était totalement différent. C'était une très bonne expérience à vivre.
Moi, j'ai une petite question.
J'étais en mute. Vas-y, Laurent, je vais dire après.
Moi, j'ai une petite question pour toi. Beaucoup de gens, je pense, ont découvert le skateboard à l'occasion de ces Jeux Olympiques. Vous avez découvert les Jeux Olympiques. Est-ce que tu penses que c'est un mariage qui peut s'inscrire dans la durée sur les Jeux ? Est-ce que vous, les skateurs, vous êtes convaincus maintenant ? Et est-ce que tu penses que le skate a convaincu les Jeux ?
Je pense que j'ai entendu parler de l'audience sur Olympic Channel et je crois que le skate avait été la meilleure audience. Du coup, je pense que ça a intéressé vraiment beaucoup de monde. On a tous reçu beaucoup, beaucoup de retours de gens qui découvraient ce qu'on faisait. Et je pense que c'est bien à nous de l'expliquer, d'expliquer comment ça marche parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé et qui n'ont pas compris comment ça fonctionnait, les systèmes de score, les systèmes de notation. Mais une fois que les gens vont comprendre, je pense que les gens, de toute façon, ils aiment bien se prendre au jeu. Peu importe le sport, s'ils comprennent, ils se prennent au jeu et puis ils suivent les sportifs et ils regardent comment ça fonctionne et puis ils sont à fond derrière leur télé. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une très bonne expérience. Après, il y a sûrement des enfants qui vont regarder, qui vont être inspirés, qui vont se dire « Ah, mais j'ai vu plein de filles skater. » Peut-être que les parents qui disent « Ah non, mais tu ne faut pas que tu skates, tu vas te blesser. » Mais ils vont voir que le podium, c'est trois petites de 13, 13 et 16 ans. Et ben, ça va peut-être inspirer, ça va peut-être développer le skate. Ça va faire plus de skateurs. Et du coup, nous, en tant que skateurs, on va avoir encore plus d'originalité, de créativité et de gens qui vont exprimer leur façon de voir le skate avec leurs planches. Et du coup, je pense que c'est une bonne chose pour le skate en général.
Alors justement, tu as un peu fait ma transition parce que je voulais parler de la précocité. Moi, j'étais impressionné par ce que j'ai vu, mais je, pour être honnête, je ne savais pas que des championnes pouvaient être aussi jeunes. Qu'est-ce qui explique une telle précocité dans ce sport ? Parce qu'il faut quand même des années, j'allais dire, de préparation et d'entraînement. Et comment on devient champion olympique à 13 ans, par exemple ?
C'est vrai qu'il faut beaucoup d'années, c'est très long pour apprendre le skate, mais les trois jeunes que vous avez vues, elles ont toutes commencé très 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 jeunes le skate et elles se sont beaucoup entraînées dans des skateparks dès le plus jeune âge. alors qu'on est beaucoup skateurs un peu plus âgés, avoir tous commencé dans la rue, être allés un petit peu plus tard dans les skateparks. Et c'est vrai qu'elles ont une façon de s'entraîner vraiment en skatepark. Elles ont tous les skateparks possibles. Elles ont des barres de toutes les tailles, des petits obstacles pour apprendre. Elles sont dans des écoles de skate et donc elles ont progressé très, très vite. Après, elles avaient sûrement une grande motivation. Et il faut se rendre compte aussi que leur gabarit leur permettent quand même de plus encaisser les chutes que nous, parce que dans le skate, on tombe forcément. Et là, si vous avez vu le skatepark des JO, il était quand même gros. La grosse partie, c'était 12 marches. Donc 12 marches, c'est quand même assez énorme. Et du coup, moi, par exemple, j'avais un quota de chute. Je ne peux pas tomber plus de 3-4 fois dessus, parce que sinon, le lendemain, je ne peux pas marcher. Alors qu'elle, elle tombait toute la journée sur les 12 marches. Elle se relevait. Le lendemain, elle skatait à un super niveau. Je pense que leur capacité de récupération, leur souplesse, leur légèreté, ça les aide à pouvoir pousser plus loin. Parce que là, il y a beaucoup des adultes qui ont participé à cette finale ou au qualif, qui auraient pu être favorites pour un podium, mais qui étaient toutes blessées, en fait.
Bah, c'est exactement ce que je voulais demander. La question, je suis spécialiste des questions bêtes, mais est-ce qu'on se fait mal? Parce que le nombre de chutes qu'il y a, j'étais impressionné, et ça se relève tout de suite.
Bah, en fait, ça dépend comment tu chutes. Donc, bien sûr, on chute tous les jours, on chute tout le temps. On apprend à chuter. En fait, on essaie de rouler, on limite les impacts. Et la plupart du temps, quand on chute, on ne se fait pas du tout mal. Mais il y a certaines chutes, oui, qui font plus mal que d'autres. Et ça dépend comment on tombe. Et là, il y a certaines personnes qui se sont un peu fait mal sur cette compétition.
Juste une petite question pour 2024. Toi, tu seras là?
Bah, je pense que je vais essayer. Ouais, c'est à la maison. Donc, en tant que Parisienne, ouais. il faut le tenter, quoi. J'aimerais bien être là.
On parle beaucoup au jeu des méga stars qu'on peut rencontrer. On a vu que dans le skate, il y avait Tony Hawk. Tony Hawk, c'est une légende du skate. Tu as pu le croiser un peu? Tu as pu skater? Tu as pu échanger?
Ouais. Bah ouais, en fait, c'est l'histoire rigolote, c'est que la veille, on reçoit un mail qui dit qu'il est strictement interdit d'aller dans le bowl. Donc, le bowl, c'est l'autre discipline. Mmh. Et du coup, parce qu'il y avait un mec du street qui avait essayé un petit peu le bowl. Du coup, ils ont dit non, surtout interdit. Et nous, on tourne la tête le lendemain et on voit deux gars qui font du bowl. On dit, mais pourquoi ils sont dans le bol? Qu'est-ce qu'ils font? Du coup, on se rapproche et là, j'ai un pote, il me dit, mais regarde, qui c'est dans le bol? C'est Tony Hawk. Et du coup, on a vu que c'était Tony Hawk. Du coup, c'était assez drôle de voir qu'il était là. Il a fait beaucoup de vidéos de l'événement. Il a fait la promotion du skate au jeu. Mais c'est vrai qu'on rencontre d'autres. Bah, après, il y a certains des skateurs qui étaient là qui sont déjà des stars. La petite Raissa, la petite jeune de 13 ans qui a gagné, c'est déjà une star au Brésil. Elle a 5 millions d'abonnés sur les réseaux. C'est déjà une enfant star, on pourrait dire.
Ouais, c'est ça que j'allais te dire aussi, c'est qu'en skateboard, il y a aussi une dimension réseaux sociaux et ça se mesure aussi à l'impact des followers que tu peux avoir sur Insta, sur Twitter, etc. Mmh. Être champion olympique, c'est bien, mais avoir une énorme communauté, on pense à l'Américain Nigel Houston qui a loupé sa finale finalement, mais ça reste quand même lui la méga star. C'est une dimension, ça à prendre en compte aussi.
Oui, c'est une grosse dimension, les réseaux sociaux. Il y a Aurélien Giraud, par exemple, aussi, qui est très connu sur les réseaux, qui poste beaucoup de vidéos. C'est quelque chose qui est très important dans le skate. En fait, c'est la visibilité, c'est l'image, c'est montrer des figures exécutées dans la rue. Tout tourne autour de ça, en fait, de la vidéo et de la photo. Donc, c'est sûr que les réseaux sociaux qui prennent en compte la photo, les vidéos, elles sont vraiment mis en avant et vraiment utilisées.
Faut qu'on la libère. Son taxi à 55 dans 3 minutes.
On y va. Ouais. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, toi aussi? On peut te suivre par République ou est-ce qu'on peut te voir skater?
Ouais, bah, vous me croiserez dans Paris, oui, République, Bastille, et puis un peu partout, La Défense.
Il ne l'a pas dit, mais on a une star du skate aussi, c'est Adrien. Moi, j'ai vu des photos sur le skate, c'était quelque chose. Hein.
Ouais, quand j'étais plus jeune, je faisais un peu de skate, c'est vrai, je reconnais.
Bon, tu tombais beaucoup, toi aussi.
Ouais, je me suis cassé le poignet un jour sur une rampe, je reconnais. Merci, Charlotte, d'avoir
pris du temps pour l'invitation.
Pour en parler. Et puis, on passe tout de suite à notre séquence suivante. Salut. L'affiche du jour, elle est à suivre en pleine nuit sur les antennes d'Eurosport et sur le site Eurosport. C'est la finale du 100 mètres nage libre à 3h25. La finale du 100 mètres nage libre, évidemment, on a envie de se lever pour la voir. Il y aura un Français en plus, Maxime Grousset, qui a signé le 8e temps des demi-finales. Maxime Dupuis, qu'est-ce qu'il faut attendre de Maxime Grousset dans cette finale? On peut espérer titiller le podium ou ça va être compliqué?
Alors, si je me réfère à ce qu'a dit Alain Bernard, qui était avec nous il y a deux jours, c'est très ambitieux de viser une médaille, mais j'ai envie de dire que l'essentiel déjà, alors essentiel, c'est pas de participer, mais c'est déjà d'y être. Vaut mieux être dans ces finales que pas y être. On avait un Français en finale olympique en 2008, évidemment, Alain Bernard, on ne rappelle pas son résultat, Agnel en 2012 et personne en 2016, donc qui renoue un peu le lien, on va dire, avec cette bonne habitude qui avait été prise. Et je pense que pour la natation, aujourd'hui, c'est quand même très, très important d'être là dans la course la plus médiatique, la plus grande course possible. 47-82, 8e chrono. J'ai envie de dire qu'il a tout à gagner là-dessus. Il avait fait un bon relais, un bon premier passage, 47-52. Il était dans la bonne vague. La suite, c'était un peu moins bien au début du 100 mètres, mais finalement, il a relevé le gant et il a répondu présent. Donc, c'est vraiment plutôt bien de le voir dans cette finale-là. Maintenant, on ne va pas parler de bonus parce que ces athlètes-là ne sont pas faits du même bois que nous. Ils ont besoin de plus. Mais c'est quand même, encore une fois, très satisfaisant de le voir là. Et puis derrière, bah, on va voir. Mais ce sera compliqué parce que ça va très, très, très vite devant.
Et après 47-52, ce que tu dis, ce qu'il a nagé sur le 4x100, c'est le troisième temps des demi-finales. Ouais, donc avec ce temps-là, il serait médaillé. Évidemment, il est si, ça ne veut rien dire. Mais bon.
Le problème, c'est d'être dans la bonne vague, d'être à côté de quelqu'un. Et là, il n'a pas une bonne ligne d'eau. Donc, ça va être ça aussi le problème pour lui.
Laurent, comment tu vois la finale, toi ?
Très rapide.
Merci, mais encore.
Non, c'est bête de dire ça, mais j'ai regardé les chronos des demi-finales du 100 mètres nage libre à Rio en 2016. Donc, je les ai sous les yeux. Le meilleur temps des demi-finales à Rio, est-ce que vous savez combien c'était ?
C'était bien moins rapide.
Allez, je le fais en 47-56.
C'était Nathan Adrian en 47-83.
Ah oui.
Ça veut dire que Maxime Grousset, avec son 47-82, il passe ric-rac avec le 8e temps des demi-finales. Il y a 5 ans, il aurait eu le meilleur temps. Donc, Caleb Dressel a dit, je le paraphrase, hein, c'est lui qui a dit qu'il pensait que ça allait aller très vite et surtout que la particularité de cette finale, on n'aura peut-être pas de record du monde. En revanche, il y a une homogénéité qui est impressionnante et Dressel a dit, moi, je me méfie de tout le monde, de la ligne 1 à la ligne 8 parce qu'il y a très peu d'écart. Alors, sur les chronos des demi, il y en a quand même deux qui se détachent. C'est Kolesnikov, le russe, et Dressel, qui ont nagé en 47-11 et 47-23, si je ne dis pas de bêtises.
C'est ça, exactement.
Et derrière, en revanche, oui, Grousset, il a le 8e temps en 47-82, mais le 7e temps, c'est 47-81, le 6e temps, c'est 47-80. Et en gros, du 3e au 8e, ça se tient en 3 dixièmes, ce qui est à la fois peu et beaucoup, mais à mon avis, c'est surtout pas grand-chose. Maintenant, attention, les chronos qui sont faits dans une course ne présagent pas toujours de ce qui va avoir lieu dans la course suivante et surtout avant une finale. Et là, on a vu par exemple qu'en série, l'Italien Checon avait nagé très vite. Il me semble qu'il avait fait le meilleur temps des séries. Et là, il est passé à la trappe. Il a nagé 6 ou 7 dixièmes moins vite en demi qu'en finale. Donc, une finale, on le sait, ce sera forcément très particulier, d'autant qu'il y aura pas mal de débutants par rapport à ce qu'on a pu voir dans les précédentes finales. Ce sera une première pour Maxime Grousset. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est ce qui la rend très, très excitante. Dressel est loin d'être archi-favori. Pour moi, il reste quand même le favori, même si Kolesnikov a nagé plus vite que lui en demi-finale. Mais il y a plein d'incertitudes. On a des nageurs qui sont plus des nageurs de 50 à la base, comme Maxime Grousset, hein, qui est d'abord un nageur de 50. Ensuite, on a des nageurs comme Chalmers, le champion olympique en titre, qui lui construit son 100 mètres sur le retour. Donc, il faudra que de toute façon, Maxime Grousset, il va être isolé dans sa ligne d'eau. Donc, il va falloir qu'il fasse sa course sans s'occuper de ce qu'il y a à côté de lui. Il faudra, à mon avis, qu'il passe aux 50 au moins aussi vite qu'aujourd'hui, c'est-à-dire au moins en 22-80 s'il veut avoir une chance d'être sur le podium. En série, ça a failli lui coûter très très cher parce qu'il est passé en plus de 23. Et s'il veut avoir la moindre chance, quoi qu'il arrive, il faudra qu'il nage en moins de 23 sur le premier 50. Donc pour moi, c'est une course ouverte. Je suis assez d'accord avec ce que disait Alain Bernard l'autre jour, c'est-à-dire que Grousset sur le podium, ce serait une divine surprise quand même. Mais ce n'est pas impossible parce que le niveau est très, très homogène et que je pense que les 8 peuvent espérer quelque chose dans cette finale.
Eh bien, écoutez, messieurs.
Si, un petit mot sur Popovici.
Popovici, le jeune.
Quand même, ouais. Et il est arrivé avec la meilleure performance mondiale de l'année, 47-30. C'était au début du mois. Ça va être aussi, lui, le gros point d'interrogation parce qu'il est très jeune et c'est impressionnant, 16 ans, d'avoir cette maturité-là, d'être là. J'ai envie de voir comment il va réagir dans une finale olympique parce qu'on sait que c'est absolument pas pareil que tout le reste. Les temps qu'on fait avant ne comptent pas. Mais alors, je ne mettrai pas une pièce sur lui quand même, mais c'est vraiment le couloir que j'ai envie de suivre parce que cette ligne d'eau-là, je pense qu'elle va être très intéressante et elle sera marquante aussi pour l'avenir. Je pense qu'il prendra date, lui.
La ligne d'eau numéro 2.
Et Popovici aussi, un nageur qui construit son 100 mètres sur la durée, sur la seconde moitié. Aujourd'hui, il nage en 47-72, il est passé en 23-28, ce qui paraît... très lent, hein, pour ouais. dire, mais sur le retour, en revanche, il fait 24-44. Personne n'a nagé plus vite que lui. Donc, lui aussi, il va devoir prendre des risques. Je pense que s'il veut être sur le podium, il sait qu'il faudra qu'il nage un petit peu plus vite sur le premier 50, même si c'est un petit peu contre nature. Mais s'il arrive à se rapprocher des 23 et qu'il tient sur le retour, lui aussi, ça peut être jouable. Mais comme dit Maxime, hein, c'est une première finale olympique sur la distance reine des Jeux en natation. Donc, ça peut jouer quand même.
On a vu un des premiers.
Pour vous donner un petit coup de vieux, il est né en 2004.
Ouais, 2004. Il a encore 17 ans. Ouais.
Imaginez quand même.
Un an avant moi. Ouais, c'est pas mal. Bon, en tout cas, le rendez-vous est pris, messieurs. 3h25. Mettez vos réveils. Vous pouvez vous réveiller juste à 3h24 si vous voulez. Hein. Vous allumez Eurosport et puis la course est partie. En tout cas, on suivra ça avec attention. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple Podcast, à nous noter, à nous laisser des commentaires. On est toujours ravis de les lire pour continuer à progresser. Merci messieurs, on ne lâche rien, on continue à regarder les JO et on se dit à très vite. Salut.